Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Oui, mais le grand événement sur France Inter, et on est comme ça, c'est par Jupiter, avec ouais. Charline et Alex.
Un peu mon neveu, ouais. Quand ouais. Vous allez savoir qui sont nos invités.
C'est exactement. Eh
oui. Merci c'est Laetitia Gaillet, bah, restez, vous allez le savoir tout de suite. Il y a un petit clap-clap, une petite musique, puis l'auditeur va découvrir avec vous. C'est parti.
Salut Charline.
Salut Alex.
Alors je me suis renseigné à fond sur nos invités du jour.
Ah super, qui c'est?
J'ai bossé, moi je les connaissais pas, mais c'est un groupe de musique qui a eu son petit succès dans les années 90.
Ouais.
Pratiquant une sorte de punk méditerranéen.
Ah pas mal, ouais.
Un rock alternatif d'influence africaine.
Ah oui, je vois, ce serait du genre No Future mais au soleil quoi.
Absolument, ouais. Mais pour être plus précis, je dirais que leur musique allie un style guinguette aux musiques méditerranéennes et sud-américaines.
Ah on adore ça.
Ah ouais, c'est très festif dans le style, mais alors assez noir dans les textes.
Ouais, et t'as bien bossé dis donc.
Ah bah j'ai un peu creusé le dos quoi. Ouais. Tu me connais, moi j'aime pas trop être dans l'écume des choses.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire par exemple leur style se rapproche un peu des négresses vertes par exemple?
Ils s'en rapprochent, ouais, c'est même...
Ah putain, génial, mais moi j'adorerais les négresses vertes, quoi.
Ah bah fond, alors tu risques d'être hyper content de nos invités parce que c'est les négresses vertes.
Quoi?
Mais tu connais?
Mais Alex, enfin, ma bête, tout le monde connaît.
Ouais, bah oui.
Le soleil de vos dégâts.
Ah bah c'est ça, c'est ça.
Oui, bah ils étaient tellement punk, c'était l'époque des Bérus, de la Mano, tout ça, quoi.
Les Bérus.
Mais les Béruriers noirs.
Bah ils sont très couleurs, hein. Les graisses vertes, les Béruriers noirs. Est-ce qu'ils ont fait un featuring avec Rose Lawrence ou...
Alex, je crois que tu vas me laisser l'interview, là, parce que...
Ah bah, non, bah te dégoûter de bosser.
Ouais, bah heureusement, ça t'arrive pas trop souvent. France Inter, bienvenue dans la start-up qui mixe l'information et la blague. Et voici les trois actualités qui vont finir en smoothie. Tellement start-up. Nous avons un gros point commun avec les Anglais en ce moment. L'hystérie du débat, son atmosphère lourde et les noms d'oiseaux qui volent un peu partout. Seul l'accord de Theresa May, qui a été rejeté cette semaine, mettait d'accord les pour et les anti-Brexit. C'est comment la colère made in England?
No, God! No, God, please, no! No! No!
Bien. Les classes supérieures ont tendance à pratiquer l'endogamie. Alors, dis plus clairement, les riches se maquent entre eux. Et c'est pire depuis que les sites de rencontres utilisent des algorithmes.
Non mais dis-moi, ma chérie, tu l'as trouvée où, cette montre?
Un cadeau, ça te va? Un cadeau à 2000 euros? Tu couches avec Jean Sarkozy ou quoi?
Le rappeur qui est au sommet des charts américains, le roi du pétrole de la musique, c'est A Boogie With Da Hoodie. Ouais. Je vous l'annonce.
Vous connaissiez bien.
J'ai découvert ce matin en voyant les actus. Bon, attendez, parce qu'il est au sommet. Hein, et il a vendu, tenez-vous bien, 823 albums physiques. Ouais, mais en fait, il éclate tous les scores en streaming et donc c'est le roi. Vous le connaissez, vous, A Boogie machin?
J'ai pris des places pour aller voir Isabelle Aubry.
Elle ne connaît pas. Vous aurez reconnu en tout cas dans ce son qu'il s'agissait du grand-père d'Alex Vizorek.
Et nous allons ensemble au concert. Aujourd'hui, une toute belle équipe composée uniquement de voix féminines. À 17h20, notre spécialiste chanson, celle qui trouve une aiguille pour vinyle dans une botte de foin musicale, c'est Mélanie Bauer, bonjour.
Oui, gros challenge aujourd'hui, chroniquer 30 ans de carrière et un coffret de 4 disques avec un livre dedans en 3 minutes.
Très bien, défi lancé. À 17h30, celle qui est l'inverse de Charline puisqu'elle fait ses questions en fonction des réponses de ses invités, c'est Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, ce soir les morts tiennent à écrire une lettre aux Français. Moi, je vais devoir retranscrire, tout simplement. C'est bien ça, mon job, Colette.
Ma foi, j'ai bien envie de vous conseiller de prendre simplement le gros Larousse. Et ça, c'est amplement suffisant.
Eh ben voilà. Elle tape dans les mains à 17h40. Elle est tellement féministe qu'elle trouve que c'est très injuste qu'un homme puisse boire plus qu'une femme. Donc elle milite, haute milite de Chardonnay. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour tout le monde. J'allais dire bonjour Alex et j'ai pas envie.
Ça c'est gentil. De quoi on va parler?
On va parler d'un roman qui de gens qui s'évadent d'une prison.
Très bien. Et à 17h55, quand je vous disais qu'il n'y a que des voix féminines, je pensais également à celle de Frédéric Promet qui viendra nous chanter sa chanson en fin d'émission.
Et voici ceux qui vont enjailler notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Vous êtes
les négresses vertes. C'est bon, ça.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Stéphane et Polo, voilà, de Négresse Verte.
C'est la délégation, c'est pas tous
oui,
là.
Oui, vous n'êtes pas tous là, évidemment. Alors, il y a effectivement une réédition. Il y a 3 CD, un DVD, il y a un live à Reykjavik. Je crois qu'il y a un live à Manchester aussi, 89. Il y a l'album là qui fête ses 30 ans avec des faces B, des remixes, des reprises, Famille Nombreuse. Et puis un très très beau livre. Voilà, alors moi j'ai réécouté votre disque. Je voulais voir ma première réaction, outre un petit peu de nostalgie, ça faut le dire. Je me suis dit, en réécoutant, mais dans, genre 10 secondes après le j'ai mis le CD, je me suis dit bon sang. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde aujourd'hui, nom de Dieu !
Alors, je crois que c'est un compliment,
c'est un compliment déguisé. C'est un peu cruel pour le rock français actuel. Mais vous avez fait un retour notamment très remarqué aux Vieilles Charrues. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les spectateurs, les gens, que c'est si bon ? Et pourquoi c'est si bon et si chargé de sens de vous réécouter aujourd'hui ? Les gens vous le disent ?
Ouais, on nous dit ça. On nous dit qu'on est content de nous revoir. Et ça c'est surtout valable pour tous les anciens fans qui reviennent comme ça, mais maintenant ils viennent aussi avec leurs enfants quoi. Et sur les festivals cet été, c'est vrai qu'on a vu les anciens, mais on a vu aussi des publics qui étaient pas venus nous voir nous et qui nous découvraient aussi. On a eu vraiment des bons retours avec la jeune génération, c'est super plaisant, ça fait vraiment très plaisir.
Ça veut dire que la nouvelle génération elle trouve en vous aussi quelque chose qui existe plus vraiment aujourd'hui.
Oui, il disait, c'est bien, vous jouez en vrai. On doit prendre ça.
C'est vrai. Alors, on en viendra tout à l'heure avec cet objet, puisqu'on va aborder un sujet sur la dématérialisation des disques. Et vous proposez tout le contraire, parce qu'il y a un livre avec des textes manuscrits, des affiches, des photos, des négresses vertes. Alors, ça fait 17 ans qu'on vous entendait plus. C'était vraiment silence radio. Polo, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 17 ans ?
On a glandé.
Voilà. Ouais, on est là.
Non, mais on a tous fait un peu ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire qu'on avait quand même presque 15 ans de négresse verte derrière nous. Mmh. On avait tous une bonne petite quarantaine d'années. Donc il y a eu des familles qui se sont construites pendant ces 17 ans-là. Et puis voilà, moi j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait pas mal de choses, des trucs assez marrants. Et puis voilà quoi, la vie. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. De toute façon, on n'a pas quitté les planches, même si on a quitté les planches avec les négresses vertes. De toute façon, nous, on n'a pas quitté les planches. Ouais. On a fait tous, des groupes. Steph, il avait son groupe Ménino qui marchait plutôt bien. Moi, j'ai fait le Rétif qui marchait pas mal non plus.
Et une envie commune, alors, où il y en a un qui a appelé les autres en disant, bon, allez, maintenant, on y retourne. Maintenant.
Au bout de 17 ans, comment ça se passe?
On se voyait, on s'est jamais quitté de vue, de toute manière. On était en contact les uns avec les autres, mais c'est vrai, comme il disait, après 15 ans, on avait tous des envies d'ailleurs quand même. Et ces 15 années-là, elles ont servi à assouvir ces envies d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on se disait, bon, un de ces quatre, parce que bon, on est toujours restés potes. Hein. On s'était pas vraiment laissés non plus, nous. On s'était dit, on va se faire une pause, mais en fait, la pause, elle s'est prolongée, quoi. Donc, voilà,
donc c'était en germe quand vous avez pris chacun vos chemins individuels.
On voulait pas faire non plus de...
C'était quand même sous-jacent qu'un jour vous alliez vous retrouver pour jouer ensemble.
On voulait pas faire de retour, le retour pour le retour quoi. Là il y a eu l'idée de, c'est Michel notre Mimiche, le trompettiste, il a dit les gars, on a 30 ans de mla, pour nous ça a sonné comme une évidence de fêter ça quoi. Parce que vu d'où on vient, par où on est passé, d'avoir un album qui dure 30 ans. Voilà, l'été, tous les étés, depuis 30 ans, tu l'entends à la radio, c'est juste incroyable pour des gens comme nous, quoi. Ouais. Donc, on a dit, on va faire ça se fête.
C'est l'album de Zobby Lamouche et c'est pas La mer à boire que c'est comme ça. Exactement. Que vous avez intitulé le livre. Mélanie Boer.
Oui, alors moi j'ai une question de geek. En 1989, je traînais avec un groupe de rock français. Vous vous moquiez beaucoup quand même des groupes de rock. Le groupe de rock en question, il s'appelait Le Cri de la Mouche. C'était le groupe de Camille Bazbaz. Il y avait une légende dans Paris qui disait que si vous aviez fait Zobby Lamouche, c'était dire Zobby Cri de la Mouche, c'est vraiment trop de la demeure.
C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai.
Vous pouvez le dire maintenant.
Vous pouvez le dire.
Non, mais c'est même pas vrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Camille Bazbaz, que je connais un peu, lui, il avait trouvé que les négresses vertes, c'était une super idée, quoi. Il a dit, moi, il m'avait dit, vous avez tout compris, quoi. Les costards, les guitares sèches, l'accordéon.
Les tapis.
Vous êtes arrivé pile poil, les tapis,
les tapis exactement.
Vous êtes arrivé pile poil, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait faire à l'époque où il fallait le faire, quoi.
Zobby Lamouche, ça existait avant
les cris de la mouche.
C'est vrai qu'on se moquait un peu d'eux, on s'appelait les cris de la bouche. Ouais. C'était méchant.
C'est vrai que vous aviez des raisons de vous moquer de ce rock français qui était quand même un peu ringard, quoi.
Ah bon, c'était pas ringard.
Ouais,
c'était...
non, c'était pas si mal quand même.
Ouais, il y avait des bons goûts à l'époque.
Un peu de complaisance.
Stéphane Mélineau et Polo des Négresses Vertes sont avec nous aujourd'hui. On va revenir tout à l'heure sur votre parcours en Angleterre, sur les disques aujourd'hui. On va peut-être découvrir ce que vous écoutez aujourd'hui. On est curieux de savoir. En attendant, nous, on vous propose un truc. C'est Djoubaka, la programmation musicale, qui pour votre venue a programmé The Capitalist Blues de Leila Makkala. Tiens donc, quoi. You keep telling me to climb this ladder. I've got to pay my dues. But as I rise, the stakes get higher. Sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark in this cold, cold world. It can be such a cold, cold world. Par Jupiter, et il y a Stéphane et Polo des Négresses Vertes qui sont avec nous pour nous parler de C'est pas la mer à boire. C'est un livre, et trois CD et un DVD avec plusieurs albums. Il y a Mla, évidemment, il y a Famille Nombreuse, Live à Manchester, à Reykjavik, des inédits, des remixes. Qui va nous en parler tout à l'heure?
Est-ce que ce serait pas Mélanie Bauer qui va faire ça? Si, si, je crois que j'ai bon. Juliette Tarnot, ce sera donc un livre. Et alors Christine Gonzalez va parler avec Colette.
Entre autres,
entre autres.
Une lettre, bien sûr. On va se refaire un petit point pour être d'équerre sur l'information, c'est si vous permettez.
C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture.
Mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Le journal de presque 17h17.
Dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
Non, mais attendez, c'est n'importe quoi !
Et on commence par les titres.
Alexandre Benalla a été présenté devant un juge après avoir été placé hier en garde à vue dans l'affaire des passeports.
Et ouais, qui sait, quand il a dû déposer ses effets personnels à l'accueil au commissariat, on a peut-être pu récupérer les derniers trucs qu'il n'avait pas rendus. Des passeports, des téléphones secrets, des brassards de police, la coupe du monde et bien d'autres choses.
La cuillère du service en argent de l'Elysée. Lors de ses vœux aux armées, Emmanuel Macron a promis de sauter en parachute.
Et en même temps, il commence à avoir de l'entraînement en chute libre, Manu, vu sa cote de popularité.
Et bien sûr, il y aura des brèves.
Et oui, voilà qui donne le vertige, c'est les brèves.
Ah oui, je confirme.
Commençons donc par l'acte 233 de l'affaire Benalla.
Ce matin, Marine Le Pen a déclaré être un petit peu étonnée de la précipitation de la garde à vue.
Ah bah oui, c'est sûr, parce qu'elle, quand elle est convoquée par la police, elle se précipite pas. Hein.
Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron se trouve à Souillac, en visite dans une école primaire du Lot.
Et nous, quitte à envoyer un membre de l'exécutif à l'école primaire, on aurait plutôt pensé à Christophe Castaner dans un premier temps.
Toujours dans le Lot, à Saint-Sauzy, Macron a déclaré à un Français qui l'a interpellé.
Et qui lui reprochait de ne penser qu'à lui.
Vous savez, si je pensais qu'à moi-même, j'aurais même pas été candidat pour être président de la République.
Eh ouais. Eh ben, ce qu'on va faire, Manu, sois un peu plus égoïste. Hein, pense à toi, pense à toi. Hein, et puis débrouille-toi.
Prends du temps pour toi.
Prends du temps, oui.
Économie. Édouard Bouygues, le fils de Martin Bouygues, rejoint le comité de Bouygues Télécom.
Comme quoi, pour avoir du boulot, il n'y a pas toujours besoin de traverser la rue. Parfois, avoir traversé l'ovocyte de sa mère, c'est suffisant.
De Bouygues à Lagardère, allons au Prud'homme, oui. Car l'ancien directeur d'Europe 1, Fabien Amias, demande 413 000 euros à la radio, contestant son éviction, dit-il, humiliante.
Ouais, 413 000 euros, c'est énorme. Hein. Je pense que si tous les auditeurs d'Europe 1 donnaient 1 euro, ils n'auraient pas assez pour le payer, hein, je pense, malheureusement.
International à présent, l'avocat d'Harvey Weinstein, Ben Braffman, renonce à le défendre.
Et oui, le mec s'est senti peu rassuré, je pense, à l'idée de se présenter en robe devant son client.
Ben Braffman, c'est bien celui qui avait défendu DSK, non ?
Oui, 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 c'est lui. C'est vous dire si Harvey Weinstein, ça doit être un immonde porc.
Le prince Philippe,
oui.
97 ans, l'époux de la reine Elisabeth II, est sorti indemne d'un accident de voiture survenu jeudi alors qu'il était au volant.
Oui, à un moment, la famille royale d'Angleterre, peut-être il devrait prendre le bus, parce que la voiture, ça leur réussit pas bien.
Justice à présent, oui. Alain Soral est condamné à 1 an de prison ferme pour injure.
Et en sortant de prison, on va voir s'il niera encore l'existence des douches, Alain Soral.
Et la savonnette.
Cadeau.
Loto du patrimoine, oui. Certaines communes ont fait savoir qu'elles étaient déçues par les montants reçus.
Oui, laissez-moi deviner. Le Valois-Perret n'est pas très content de ce qu'il a reçu. Ah là là, c'est triste.
En France, toujours un député du Nord veut une loi sur une drogue à la mode chez les jeunes, c'est le gaz hilarant.
Ouais, je pense que plutôt que de légiférer, il ferait mieux d'essayer lui-même, parce que dans le Nord, il ne faut jamais rater une occasion de rire.
Et les brèves.
Et les brèves. États-Unis, un couple pose sur Snapchat avec une arme, le coup part et tue le mari. Certains appellent ça la malchance, mais je pense que la sélection naturelle serait un meilleur mot. En tout cas, j'espère qu'ils auront pas mal de likes.
Allez, la dernière.
Et la dernière, attention, un groupe d'activistes va organiser en 2020 un voyage en bateau pour prouver que la Terre est plate. Ce qui est bien, c'est que s'ils reviennent pas avant d'avoir trouvé le bord, ils sont pas prêts de nous emmerder.
Merci Alex. Il est 17h24 sur France Inter. Stéphane et Polo des Négresses Vertes sont avec nous. On va aborder ce premier sujet. C'est la colère qui prend un aller-retour généralement pour l'Eurostar. Parce que les pros et les anti-gilets jaunes se mettent sur la gueule par raison interposée en France. Tandis qu'en Angleterre, les pros et les anti-Brexit plongent aussi le pays dans un climat d'hystérie. Alors au milieu des pros et des anti, doit bien exister des Britanniques indécis. On les voit jamais, on les entend jamais ceux-là. Alors ils disent quoi ? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. Les Clash.
Dois-je rester ou dois-je partir?
Exactement. C'est shakespearien. Hein, être ou ne pas être, partir, rester, c'est les Clash, c'est Shakespeare. Alors, vous qui connaissez bien les Anglais, parce que on rappelle que vous avez quand même fait une bonne partie de votre carrière là-bas, ouais, vous avez démarré là-bas, on va y venir d'ailleurs. Est-ce que vous êtes capable de dire si un Anglais qui est très en pétard, il est très différent d'un Français très en colère?
Alors là, ça c'est difficile à dire, hein, mais je pense que peut-être que, vu qu'ils n'ont pas coupé la tête de leur roi, les Anglais...
Leur reine.
Leur reine, ouais. Bah non, c'est leur reine, pardon, trop pour moi. Peut-être qu'ils sont un peu moins virulents que le Français en colère.
Il y a peut-être une colère avec flegme.
Peut-être, avec plus froide.
Ouais. Vous regardez un petit peu l'évolution du Brexit,
ouais, d'un œil,
ce genre de choses, d'un œil vous gardez.
D'un œil, sans mettre les lunettes.
Ouais. Moi je regarde un peu parce que ma fille va partir en Angleterre l'année prochaine pour étudier justement, mm-hmm. Elle fait une école de musique là-bas. Et bon, jusqu'à présent ça n'a rien changé, à la frontière on me demande toujours des papiers, en tout cas moi ils me le demandent à chaque fois.
De toute façon,
à l'aller, moi au retour, bizarrement. Ouais. Ils sont plutôt contents qu'on s'en aille.
Vous pensez que ça va avoir des conséquences? Vous regardez si ça va avoir des conséquences pour elle ou pas?
Non, je pense pas. Ouais. Je pense qu'ils sont contents quand même d'avoir des étudiants, enfin, dans le domaine où elle va être. Ils disaient que c'est vrai qu'ils sont contents d'avoir quand même des étudiants qui viennent, qui soient pas qu'anglais, quoi.
Eh oui.
Ouais.
Alors, je vais en venir quand on ouvre ce livre. Alors, c'est paru chez Because Music, que vous dites vos disques. Il y a un petit mot liminaire de Peter Murray.
Ouais.
Vous pouvez expliquer qui c'est?
Peter, c'était notre premier producteur, qui était la maison de disques Off the Track. Mm-hmm. Et c'est lui qui nous a signé en premier, qui a signé Les Négresses. Ouais. Et avec lui qu'on a réalisé Là, il nous a présenté Clive Martin, William Orbit, enfin tout.
Il y a un petit mot, en 88, donc, il dit qu'il rencontre au cœur des puces de Saint-Ouen une bande de potes qui me bouleversent. Des mecs, des filles et un chien. Des gueules, une énergie, surtout une attitude. Je les aurais signés par pur instinct sans connaître leur musique. Et je comprends que ce groupe est unique quand j'écoute leurs chansons pour la première fois. La langue qu'ils chantent est certes le français, mais la France n'est pas prête pour cette originalité. Du punk acoustique avec un chanteur parolier digne de Gainsbourg. C'est donc vers la Grande-Bretagne que je mise et j'envoie tout ce beau monde en bus à Londres pour écumer les pubs et les clubs jusqu'au mythique Ronnie Scott. Donc c'est vraiment, alors c'est incroyable pour un groupe français de démarrer en Angleterre. Pouvez-vous nous raconter quand vous débarquez avec vos instruments, ils vous envoient dans le bus, vous débarquez dans les pubs en Angleterre, qu'est-ce qui se passe?
Ça se passe super bien. En France, c'était les négresses vertes, pourquoi pas les fromages blancs. Donc, en Angleterre, ils n'ont pas ça. Ils voient pas les choses de la même manière.
Ah, déjà au départ, rien que le nom.
On a eu du mal au début en France, ouais. C'est sûr. Mais en Angleterre, non, les gens, ils ont eu une super réaction. Et en fait, il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de groupe, contrairement à ce qu'on pense.
Ouais.
Et dans les années, milieu des années 80, c'était surtout, principalement, c'était des couples ou alors c'était des petites machines. C'était pas mal ça quand même, c'était beaucoup les synthés, les trucs. Il n'y avait plus de gros groupes, on était nombreux, on était jusqu'à 11 sur scène, donc ça faisait quand même du monde. Et ça les a surpris. Et puis surtout, c'est qu'on faisait pas, on faisait quelque chose, on fait toujours d'ailleurs, quelque chose qu'ils ne font pas eux. Et eux, ils sont pas, et eux, bon, bah, faire du rock'n'roll, c'est faire un peu la musique que font les Anglais, quoi. Que nous, on avait l'attitude, il y avait l'attitude rock'n'roll, mais la musique, elle, c'était autre chose, c'était super françoise. Donc, ils ont aimé, quoi, ils ont forcément aimé, quoi. Et puis, la chaleur, puis tout le décorum, quoi, les tapis, les costards, le chien, ça leur a plu tout de suite, quoi.
Le côté latin, mais aussi voilà, très métissé, ils étaient ouverts à la différence.
Petit brun et tout partout.
Ouais. Alors, venons-en, alors,
bah oui, parce que
à ce défi.
Les Négresses Vertes, c'est l'exception qui confirme la règle, un miracle de la scène musicale française. Alors, je resitue le contexte, hein, 1987, le rock est tout puissant, il est la culture jeune. Bon, il y a quand même quelques petits jeunes qui imitent des robots, font des acrobaties avec des casquettes à l'envers, en scandant HIP, HOP, mais bon, ils sont en minorité. Quant à la house, elle paraît très très loin de chez nous, à Chicago, en Amérique. En France, la musique électronique, ce sont des concerts au château de Versailles, avec des shows tout illuminés, une frange adulte et bourgeoise de la population. Non, la culture jeune chez nous, outre la variété internationale qui se déverse sur les chaînes de télé musicales, la véritable culture jeune chez nous, celle qui fait bouger les clubs et les salles de concert, c'est la scène rock alternative, héritée des berruriers noirs, un rock très différent de celui des anglo-saxons, dérivé du punk, engagé, énervé, une spécificité française qui s'organise grâce à la dynamique des bars et des labels indépendants.
Il va, ça va, je quitte les creux, qu'on n'a pas déconné les dieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé, c'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit.
Les Négresses Vertes, c'est un peu un fourre-tout de toute la culture des quartiers nord de Paris des années 80, son métissé déglingué qui vient de la rue, du zinc, un truc manouche, cirque, punk oriental et chansons réalistes. Tout ça parlait très très loin de la scène électronique qui est en train de s'organiser en Angleterre, mais finalement pas tant que ça. Il y a un côté pub à la Pogues dans les Négresses Vertes. Elno est un peu un Shane McGowan qui aurait écouté Jacques Brel. Et puis il y a aussi cette Angleterre qui explore ses racines, le métissage dans sa musique. Les Jamaïcains, les Indiens, toute la diversité de la population du Royaume-Uni se fond dans une house music teintée de rock. Et c'est là que les destins convergent. Peter Murray, le producteur du groupe, va chercher un jeune londonien célèbre pour ses collaborations avec David Byrne des Talking Heads, Clive Martin, qui réalise leur premier album en 1988. Et puis aussi un jeune DJ, William Orbit, pour remixer Zobby Lamouche. Et bam, l'impossible arrive. Les Négresses Vertes ne sont plus des rockers bouffeurs de grenouilles, musiciens méprisés des roses beef, ils deviennent un groupe branché de world music. Les Les négresses vertes, Green Black Women en anglais, c'est l'événement français le plus important depuis la Deux Chevaux pour les Britons, raconte Jackie Berroyer dans le livre qui accompagne les 4 CD de chansons live et remix des négresses vertes, sorti sous le titre C'est pas la mer à boire. Car oui, à l'époque, la France, c'est ça, les Deux Chevaux, Sacha Distel et le Minitel, le kitsch ringard. On ne traverse pas la Manche en 2 heures de train, non, on rame en ferry pour faire connaître ses chansons. Les négresses vertes vont changer tout ça. Bon, alors, je vais pas vous faire toute la biographie du groupe, hein, faudrait au moins 1 heure pour bien faire. Non, juste rappeler qu'ils sont précurseurs de tant de choses. Ils sont mixtes, ils sont métissés, ils sont modernes, ils sont expérimentaux, ils sont internationaux, ils sont indépendants, hors format, dramatiquement rock et joyeusement enfant.
Va-t'en chercher du bois, va-t'en chercher du bois, va-t'en chercher du bois qui est là-bas juste derrière chez moi. Va-t'en chercher du bois.
N'importe quoi cette chanson. Enfin, c'est finalement. Enfin, c'est finalement en peu de morceaux que les négresses vertes ont ouvert toutes sortes d'horizons à la musique française. Arrachés en plein vol par le deuil, ils sont un patrimoine qui fête ses 30 ans et qui pourtant reste encore méconnu par plein d'aspects, écrasé par les tubes. Un résumé sommaire de tout ce qu'ils savaient inventer, ça vaut le coup de se replonger dans les clips, les titres dub, l'énergie des concerts, la richesse du collectif, la qualité de recherche des sonorités. Bref, un coffret, c'était pas trop.
Il a toujours tout. Dernier de la classe, il lève des civils. Mais que font ses parents? Un élevage de morpions. Ils en ont une tribu plus nombreux que les pions. Qui en sont dépourvus des jumeaux, des triplons. Et même dit qu'à du blé. Bonne chance, mon professeur. Et mettez-y du cœur. Quand on vient l'aborder sur des problèmes de crasse, d'oral et délictés. Mais que font ses parents, les allocs familiales ont préservé l'amour des parents de ses filles. Qui font sa nuit et jour des jumeaux, des triplons et même des quintuplés. Ils nous donnent des enfants qui viennent tous en chantant. Ils chantent. Famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, on a du cœur, quand on est frères et sœurs. Ah ah, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, on a du cœur, quand on est frères et sœurs. Avec sa sœur aînée, tu chopes de la poitrine à force de redoubler. Mais qui sont ces enfants assis au fond de la classe? Ils sont une tripotée, le même nom, la même face. Et tous le doigt dans le nez des jumeaux, des triplés et même des quintuplés. C'est bien plus qu'une famille, voilà une escadrille.
Famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, on a du cœur, quand on est frères et sœurs. Ah ah, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, on a du cœur, quand on est frères et sœurs. Ah ah,
les Les Négresses Vertes dans ce coffret C'est pas la mer à boire, avec ce remix que vous avez choisi,
remix
Mélanie Bauer.
De Norman Cook, Fatboy Slim ou Pizzaman comme vous voulez, Famille Heureuse.
Comme on veut. Hein.
Je choisis le chemin.
C'est un coffret, il y a 3 CD, un DVD, un livre.
Oui, c'est très très riche.
C'est, ouais, c'est super. Ça fait plaisir. Et ça permet de redécouvrir, alors vous disiez, il y a plein de choses à redécouvrir, c'est... On vous le conseille, hein, vraiment.
Oui, ouais, c'est ce que je disais. En fait, les tubes, ça écrase la carrière des Négresses Vertes et ça vaut le coup d'aller retrouver toutes ces expérimentations musicales du groupe.
Et voilà, car il y a Stéphane et Polo qui sont avec nous jusqu'à 18h. On va revenir, bien sûr, à cet album, à l'actualité. Et en attendant, c'est le moment de Christine Gonzalez.
Vous m'emmerdez, hein. Je vous le dis franchement. J'ai une chronique à faire et au lieu de ça, vous m'obligez à réécrire votre lettre, là. Bon, alors, on commence par quoi ? Chers citoyens, chères citoyennes.
Française.
Le chemin a été long. Le chemin a été difficile.
C'est votre optimisme légendaire, ça, Georges Brassens. Hein ?
Oui, bien sûr.
Vous voulez pas, avant de commencer, qu'on fasse un plan ? Comme ça, on voit où on va ?
J'ai mieux avoué tout de suite que je continue à ne pas faire de plan littéraire.
Oui, ça c'est votre manière de travailler, Colette, mais on pourrait faire efficace et léger.
J'ai mieux vous avouer tout de suite que je n'écris pas dans l'allégresse.
Bon, alors j'écris quoi ? Je vous écoute. Hein.
Du piment. Pimenté, n'est-ce pas ? N'ayez pas peur de pimenter,
d'accord. Vous voulez pas faire allusion à leur gouvernement, histoire que les Français se sentent soutenus par l'au-delà ?
Oui, si vous voulez.
Bien, alors...
Vous avez créé un type. Et ça vous suivra pendant des années et des années comme une sorte de châtiment.
Oui, sorte de châtiment. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait pas masquer votre fatalisme par une image un peu moins sombre, peut-être ?
Oui, et ici je voudrais vous dire quelque chose qui légitime la vue de l'avenir.
Parfait, je note.
Où la chèvre est attachée. Il faut qu'elle broute.
C'est idiot, c'est du misérabilisme.
Qui c'est qui parle là maintenant ?
Ah, très bon acteur.
Un bon acteur, Jean Marais ?
Non.
Jean Gabin ?
Non.
Gérard Philippe ?
Ah non, dites donc, plaisantons pas.
Je vous reconnais maintenant, c'est Bernard Blier.
Oui, bien sûr.
Bon, alors vous dites que c'est misérabiliste, d'accord, mais on met quoi à la place ?
Moi, je sais pas.
Bah, fallait pas nous interrompre pour rien, alors.
De toute façon, c'est pas à moi qu'il faut le demander.
Bon, Brassens, la suite, c'est quoi ?
J'ai l'impression que nous sommes en train de faire de la haute philosophie, là. Je n'en suis pas capable, vous savez.
Bon, faut qu'on avance, là. Vous voulez pas aller me chercher un vrai philosophe ?
Qui ?
Je sais pas, aller chercher... Aller me chercher Sartre. Oui.
Votre
correspondant est actuellement occupé.
Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter.
Jean-Paul Sartre ?
Oui.
Vos copains de l'au-delà veulent écrire une lettre aux Français. Ils ont besoin d'une phrase intelligente. Alors, il faut qu'on avance assez vite. L'heure tourne. Je vous écoute, je recopie, pondez un machin.
Nous ne pouvons être opprimés, exploités, mystifiés que parce que nous sommes libres. Les mythes dévient notre liberté et nous la font aller dans un autre sens que nous ne voulons. De sorte que ce que nous faisons en croyant que c'est librement, très souvent, c'est une chose qui est mystifiée par d'autres libertés.
Je comprends rien.
Pour vous donner l'exemple, ou le plus simple possible, quand un boxeur fait une feinte, son adversaire croit le frapper, par exemple, sur l'arcade sourcilière. En fait, il ne rencontre que le vide et il offre à celui qui a fait la feinte un corps désarmé sur lequel on peut frapper.
Je marque quoi alors ? Tel le vide offert par la fin du boxeur, faites en sorte d'être libre ?
Ben oui, si vous voulez.
Alors, boxeur, faites en sorte d'être libre. Voilà. Et on termine par quoi ?
Monsieur, je vous présente mes respects.
Bah non, Bernard Blier.
Pourquoi ? Monsieur, je vous présente mes respects.
Non, mais
ça ne se dit plus ?
Non, c'est nul. Puis ça exclut les femmes, et puis même madame, monsieur, mes respects, c'est nul. C'est nul.
C'est gentil, ça.
Ouais. Un truc sobre, direct, mon général, une idée.
Vive la République. Ouais. Vive la France.
Vive la France. Ouais, c'est efficace. Bon, alors si on se résume. Français, le chemin a été long, le chemin a été difficile. Du piment, n'ayez pas peur de pimenter. Vous avez créé un type et ça vous suivra des années et des années comme une sorte de châtiment. Mais n'oubliez pas, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. tel le vide offert par la fin du boxeur. Faites en sorte d'être libre. Vive la République. Vive la France. Ça vous va?
Oh, oui.
Oui.
Bon, alors, on envoie ça. On envoie ça aux Français par mail. C'est écolo, pas cher. On est d'accord?
Oui.
Oui, si vous voulez.
Oui.
Bon, ok. Envoyez.
Bravo Christine Gonzalez.
Je fais ce que je peux. Merci. Je fais la sténographie.
C'est incroyable. Ouais. C'est, voilà.
Enfin, Sartre, il a pas dû boxer souvent. Dans ses... J'ai l'impression.
Avec les archives de l'INA, bien sûr. Pff, magnifique travail. Merci ouais. Christine Gonzalez. Et tiens, ce soir à 21h, on peut écouter le deuxième numéro de votre nouvelle émission chez nos confrères de la RTS.
Sur la première.
Ouais, la première. Alors pour écouter depuis la France, bah, par exemple RTS.ch, si vous n'avez pas de radio numérique. Votre émission s'appelle Question Q. Et ce soir, le thème qui sera abordé sera la sodomie.
La sodomie, absolument.
Donc, c'est à 21h. Soyez prêts.
Et on ne parle pas politique. Hein.
Voilà. Question Q. Bon, sinon, sur notre antenne, il y a de la musique avec Didier Varro, je rappelle aussi. Voilà. Pour...
Merci. Deux salles, deux ambiances.
Exactement. Merci, Christine Grosales. Restez avec nous et avec les Négresses Vertes. On va aborder avec Stéphane et Polo ces deux derniers sujets. Les premiers de cordée. Bon, ils se marient entre eux. Ça a toujours existé, mais il existe des applications de rencontres qui amplifient ce phénomène en réservant l'accès aux très très gros revenus. Une appli pour que les riches se reproduisent entre eux. L'idée vient des États-Unis, mais il y a qu'un mec qui sort d'une école de commerce pour inventer un truc pareil, c'est sûr, écoutez.
Ne dis pas que sur le campus, tu peux pas trouver juste.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est l'effet pervers du marché. Les filles, elles calquent leur choix sur quoi? Sur celui des autres investisseurs. Elles sont pas à la recherche d'un mec qui leur plaît, mais elles cherchent un mec qui plaira à la majorité d'entre elles. Donc ça veut dire qu'elles sécurisent leur investissement. Donc la demande augmente. Et le prix augmente avec. Or, on est quoi? On est comme sur le marché du luxe, le prix. C'est le signe de la qualité du produit. Ergo, la demande augmente avec le prix. Au final, quelques mecs baissent toujours plus et nous, toujours moins, quoi. Enfin. Ouais, voire pas du tout, ça.
Un extrait de la crème, le film de Kim Chapiron. C'est un article qu'on a trouvé dans le magazine Les Échos et qui nous explique qu'il y a des applications de rencontres pour les très 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 hauts revenus. Il faut gagner genre 200 000 dollars par an. Et là, vous payez 100 euros par mois l'application et vous rencontrez des gens blindés.
C'est exagéré, 176 000 dollars par an seulement.
C'est pas en euros, ça?
Oh merde, bien joué.
Ouais, bien sûr.
Ah, bien joué.
Je travaille un peu les dossiers quand même avant l'émission.
Donc, du coup, elle s'est pas inscrite, pof.
C'est tellement outrancier que le créateur de l'appli la plus utilisée dans ce domaine veut rester anonyme. Il a peut-être un peu peur qu'on lui pète la gueule, c'est bon, voilà. Mais pour l'instant, il y a quand même des milliers d'abonnés à 100 boules par mois. Ça sent quoi cette démarche entre riches, ils se sont toujours maqués entre eux, ok. Mais alors là, il y a des applis pour être bien sûr que ça matche plus facilement.
Oh, mais les pauvres aussi sont souvent entre eux. Hein, donc,
ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est la
dématérialisation.
De la rencontre, ouais.
Bon, on n'a jamais mélangé trop non plus les torchons avec les serviettes. Hein, je veux dire.
C'est peut-être des gens insupportables, on n'a pas envie de les rencontrer.
Pas.
Peut-être.
Oh, c'est qu'ils restent entre eux.
Ouais, ceux qui s'inscrivent sur l'appli, c'est sûr.
Et l'ascenseur social. On y pense à l'ascenseur social.
On aimerait bien, mais peut-être pas. Oui, c'est vrai. Si coucher, ça peut faire gagner 3 étages,
et ouais.
D'un coup, pourquoi pas. Je voudrais.
Belle démarche. On sait pourquoi vous êtes au 6e.
Ouais. Non, mais alors ça m'a aussi fait penser aux Négresses Vertes parce que je relis un extrait d'interview d'Elno en 91 qui dit ceci. Dans la cité HLM où j'habitais quand j'étais gosse, on entendait de la musique arabe du matin au soir et tous les dimanches avaient lieu des pique-niques sur les pelouses. Le cerveau enregistre machinalement. On s'intègre ainsi dans une mémoire collective qui réapparaît sans qu'on s'en aperçoive. C'est de l'alchimie humaine. La musique africaine, je l'écoutais quand toujours môme, j'allais bouffer dans les foyers Sonacotra. Il a déclaré ça en 91, deux ans avant de disparaître.
C'est toujours vrai.
Ouais, les Négresses Vertes, c'est un plaidoyer pour le mélange. Comment vous vous êtes rencontrés déjà? Ça, c'est le contraire de l'appli. Quand vous formez les Négresses Vertes, vous croisez dans les rues, dans les bars.
On se croisait dans les concerts. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. On était... De toute façon, les Négresses Vertes, c'est un groupe de copains avant tout. Hein.
Et il n'y avait pas c'est-à-dire une uniformité sociale, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient de certains milieux,
d'autres. Ouais, enfin, il n'y avait pas trop de riches. Hein,
mais c'est la sous-question du truc.
Il n'y avait pas trop de riches.
On est quand même issus de working class d'en bas.
Ouais.
Mais donc, bon, voilà.
Mais la rencontre, c'est ça, c'est la passion commune de la musique, mais c'est les bars,
on a 20 ans et on se rencontre autour du milieu musical qui nous intéressait à l'époque. On était tous dans des groupes séparés, on se connaît, on se voit, on s'apprécie, on est dans des groupes différents, et on guette l'occasion,
du jour où on va pouvoir se quitter nos propres, nos anciens groupes pour se remettre ensemble tous là.
Ah oui.
C'est un peu ça qui est arrivé.
Ouais.
Le dernier à venir, Elno, quand on a commencé, il était encore avec les Berrues.
Mm-hmm. Les Berruriers noirs, hein, pour
ouais, Alexandre. Maintenant, j'ai bien assumé.
Et je me souviens, je jouais dans un troxon, je sais plus où c'était, et ce jour-là, il avait toujours un concert avec les Berrues, et puis il nous dit, ouais, putain, merde. J'ai concert ce soir avec les Berrues, je suis obligé d'y aller, machin et tout. On me dit, mais écoute, si tu y vas, nous on va chanter quand même. Hein. Alors il dit, ouais, d'accord, putain, mais quand même et tout. J'ai dit, non, on va chanter quand même et tout. Puis il y va, quoi. Et on se pointe dans le café pour chanter, là, parce que vraiment c'était un café, ouais. Et tac, le soir, on l'a vu arriver, revenir en disant, ça y est, j'ai divorcé. je suis enfin libre.
C'est ça que ça fait penser. Chacun a dû quitter son groupe pour faire
ah ouais, pour ouais,
ouais. Nouveau, ouais. Les Négresses Vertes. merci Stéphane et Polo, vous restez avec nous jusqu'à 18h. On parle de ce, comment on dit, c'est un coffret livre.
Ouais.
Un coffret, oui.
Toute votre histoire des Négresses Vertes. C'est pas la mer à boire.
La première partie de notre histoire, c'est ouais. Jusqu'à toute l'époque elle nous, on va dire.
C'est 87 jusqu'à 93. Ouais. Parce que l'histoire elle est encore en train de s'écrire puisque vous êtes en tournée. Vous serez le 1er février à l'Olympia, le 24 janvier à Clermont-Ferrand, le lendemain vous serez à Lyon, le 8 février à Sochaux, le 9 à Bichevillers, puis à Cahors, Bruxelles, ah, magnifique, à l'ancienne Belgique, voilà. Le 22 février, Biarritz, Bordeaux, Montpellier, Marseille, le
c'est
9
bon,
mars.
La Belgique.
On va souvent en Belgique, on a commencé bien, par la Belgique la tournée là.
Ouais.
On a commencé par Huy, Arlon, tu vois, tous les petits coins là en haut là, vers le Luxembourg. Mm-hmm. En plus, on joue des deux côtés, nous. On joue chez les Flamands aussi, Rue de Havunt, grave.
Ça veut dire bonne soirée.
Ouais, on était à Dranouter, on est Leuven, enfin, on va souvent en Belgique.
Et peut-être ça leur donnera une envie de nouvelles créations, trois petits points, nous verrons. Juliette Arnaud, justement, venons-en à la littérature.
Oui, alors, pour le livre d'aujourd'hui, pour vous situer, année 1968, lieu, une petite ville dans le Colorado. Alors, pour ceux qui situent pas trop l'état du Colorado, c'est un état rectangulaire au centre du pays. C'est à la fois l'état du parc national des montagnes rocheuses et celui de la tuerie de Columbine. C'est un peu raide comme résumé, mais c'est l'humeur du livre. Alors, la petite ville, c'est une bourgade riante où les habitants, ne voyant pas bien quand le Colorado allait pouvoir avoir besoin d'une université, ont choisi plutôt une prison. Prison tenue par un héritier des pontes du Ku Klux Klan, avec des gardiens et des détenus dont beaucoup reviennent du Vietnam ou de Corée. Bref, c'est un pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est le paradis. Le roman commence, 12 détenus viennent de se faire la malle. Autour d'eux, la nuit, les rocheuses, la neige en tempête et à leur cul, l'intégralité de ceux qui portent un uniforme et qui, pour citer l'auteur, n'ont pas reçu l'intelligence que Dieu confia au poteau de clôture. Et avec pour mission, selon la formule consacrée, de ramener les détenus, morts ou vifs. Le roman, 400 pages, raconte ces 24 heures de traque de ces gars, morts ou vifs. Vifs, parce que tout ce beau monde carbure à la dexédrine, comme au Vietnam. C'est ce qui a permis aux États-Unis de gagner la guerre du Vietnam. Ah, on me dit, ah non, ils ne l'ont pas gagné. Bon, eh ben, alors je ne sais pas à quoi ça a servi. Alors, cette amphétamine, la dexédrine, elle était distribuée aux GIs et elle avait comme effet secondaire des choses tout à fait captivantes. D'abord, tel le chat, tu deviens nyctalope.
Tu vois la nuit.
Enfin, c'est ce qu'il raconte. Et autre effet secondaire très apprécié du haut commandement américain, augmentation de l'agressivité et du sentiment de paranoïa. Les meilleurs soldats qui te font gagner la guerre du Vietnam. Ah non, toujours pas. Mort ou vif, donc, mais ça va quand même être plutôt sur la mort qu'on va être. Et avant ça, pendant ça, une ultra-violence école Sam Peckinpah, ou plutôt que Tarantino. Or, moi, qui ne suis pas particulièrement fan de Peckinpah, ces films me fascinent mais ils me terrorisent en même temps. Alors, pourquoi est-ce que je me suis cramponnée tout de même? Parce que l'auteur, Benjamin Whitmer, en changeant à chaque chapitre de point de vue, un détenu, un journaliste, un traqueur, te visse à leur destin en carambolage. Le détenu Mopar, par exemple. Celui qui ne cesse de se repasser le film de comment il a atterri dans cette foutue prison, par amour et par malchance, combinaison fatale. Le sensible Mopar qui ne cesse de s'engueuler et de se répéter. T'es l'enfoiré le plus crétin qui ait jamais vécu. T'es lent, tu bouges lentement, tu penses lentement, tu mérites de te faire pendre. Le journaliste, qui lui est revenu de Corée et qui a pour doctrine « En général, je me fous à peu près de tout. » Ouais, bah c'est un journaliste, quoi. Le traqueur, le vrai traqueur, et qui n'est doué que pour ça. Alors, il est seul, méprisé des autres. Et qui dit la chose suivante sur la traque, mais qui vaut pour tout un tas de choses. Il dit « La traque, ça se résume à deux choses. 1. Être attentif. La plupart des gens ne sont attentifs à rien. 2. Savoir à quel point c'est facile de se tromper. » C'est un mantra qui est très bien et qui marche aussi avec la politique et la sodomie. Ah, ça c'est Christine qui dit ça. Des hommes, donc, en bout de course, même si ce ne sont pas des vieillards, et une fille. Ah ! Mais vu qu'elle deal de l'herbe, elle est hors la loi. Et elle est prise au milieu des tirs croisés parce que Maupart est son cousin et qu'elle voudrait lui éviter d'être abattue comme un chien. Et cela, hommes et femmes, nourrissent ton empathie de lecteur dans cette course ralentie par les éléments naturels. À cela, l'auteur donne de la poésie, des minuscules richesses intimes et de l'humour aussi. Oui, oui, tu ris parfois. Tu t'étranges juste derrière. C'est le tarif d'évasion. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous les références du livre, Juliette.
Alors donc, ça s'appelle Évasion. L'auteur, c'est Benjamin Whitmer et c'est chez Gallmeister.
Merci beaucoup, Juju. Un rappeur est assis au sommet du classement des meilleures ventes dans le fameux classement Billboard 200. Donc, c'est magazine spécialisé de l'industrie du disque.
Hein. Le Billboard, oui, c'est la bible des ventes de disques aux États-Unis. Ouais.
Voilà, il s'appelle A Boogie With Da Hoodie, c'est pour dire...
Comment il s'appelle?
Ouais, voilà, c'est le gars qui est en haut, si tu veux. Voilà. Bon, combien d'albums il a vendu? 823. Non, pas 823 000, hein, parce que bon, je veux dire, les graisses vertes, c'est quoi? C'était 180 000 en France, 370 000 dans le monde.
C'est plusieurs millions.
Des millions si on compile tout, mais là c'est 823. Parce qu'aujourd'hui, les écoutes en ligne sont converties en ventes d'albums. Donc tout est comme ça dans le nuage, dans le cloud. Qui a fait le calcul? Faudrait savoir.
118 000 francs, 1 million 180 000 centimes, répartis à égalité.
1 110 000.
J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Bah ouais, il a été secrétaire général de la CGT jusqu'en 92, donc c'était ouais. Les négresses vertes, quoi, ça, Henri Krasuki. Voilà, juste une question à ce sujet. On a donc un artiste qui est tout en haut des meilleures ventes avec 823 albums physiques. Je voulais vous faire réagir parce que bah, nous on a les albums des négresses vertes, puis là il y a les trois albums avec un beau livre plus un DVD, où il y a le truc physique, que voilà, on le monde a changé, on se réveille, il y a plus de matière.
C'est encore un coup de la dématérialisation.
Ouais. Ça vous aimez pas trop ça, vous?
Bah, c'est pas trop notre truc, moi.
Ouais.
La preuve.
Ouais, oui.
C'est flippant aussi pour les jeunes qui ont envie de se lancer dans le truc là. J'imagine bien, si je veux vendre 820 albums, je vais pas aller loin, quoi.
Ouais.
C'est flippant, ouais. Mais c'est la façon dont c'est consommé aussi. Il y a 85 millions de clics, enfin, de gens qui ont regardé.
Ouais. Et puis, il y a la consommation gratuite sur YouTube. En tout cas, une manière de résister, c'est de se procurer. C'est pas la mer à boire.
Nous, on est à l'ancienne, on achète les albums.
Bah ouais, ouais, mais nous aussi, hein, on est à l'ancienne.
Je vais vous conseiller un petit jeune qui est marqué derrière vous. Ouais. Frédéric Fromet, qui sera Ifto en Normandie ce week-end.
Exactement.
Mais là, il nous a écrit une petite chanson. De quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, comme vendredi dernier, j'ai enchanté Vladimir Cosma en mettant des paroles sur ses musiques. Cette semaine, j'essayais à tout prix de faire de même avec nos invités du jour, les Négresses Vertes. Alors j'ai dû chercher jusqu'à Bruxelles, où se tient actuellement le procès d'un terroriste. Hey, vous me reconnaissez? Mehdi Nemouche, on m'appelle Mehdi. Oui, c'est moi, Nemouche, dans un musée, Bibi. Je vous l'accorde, c'est louche, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'en tiens une sacrée couche. C'était pas écrit, musée de la babouche. C'était pas le musée de la lapidation, de la charia ou du burkini. C'était pas le musée de la décapitation, de la fatwa ou du nazi. Mehdi Nemouche. Pourquoi t'as fait ça? Ben parce que c'est comme ça, parce que c'est marqué dans le bouquin. Mehdi Nemouche. Ouais. Chantons plutôt pour celles et ceux qui ne croient pas aux fake news. Voilà la thé qui n'a pas de Père Noël, qui ne gobe pas tous ses délires, qui n'agit pas selon un manuel. J'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà la thé qui regarde le ciel, en n'y voyant que nuages au soleil. Pas l'ombre d'un grand Manitou foireux, incompétent. Tous les dieux sont du vent. Voilà la thé, c'est pas du superflu. contre les cubénus intolérants, les calottes, les kippas, les barbus, vive le mécréant. Religion, piège à con. Voilà la thé, 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 voilà la thé. Amen.
Merci.
Hey, merci Frédéric Fromé. Stéphane Polo, une réaction?
On a les mêmes guitares. Super, ouais. On a la même marque à l'embras.
Ah, c'est vrai?
C'est la marque des
bonnes guitares.
Merci beaucoup Frédéric Fromé pour ce bel hommage aux dégraisses vertes avec vos petites blagonnettes dessus. Vous le preniez mieux que Vladimir Cosma qui était un petit peu chafouin la semaine dernière. Ah ouais. Ah, j'aime pas qu'on rigole avec ma musique, c'était raté, c'était trop tard. Merci beaucoup Stéphane Medino, merci Polo de Dégraisse Verte, c'était vraiment un bonheur de vous retrouver. Et on peut vous retrouver en tournée, je l'ai dit, 24 janvier à Clermont-Ferrand, 1er février ce sera à l'Olympia, 31 janvier à Rouen, 7 février à Abbeville, vous passez aussi par Cahors, Biarritz, Bruxelles, Bordeaux, Montpellier, Louis-Mars, Marseille, le lendemain. Et puis je rappelle, c'est pas la mer à boire, les années 87-93, des négresses vertes, 93, avec les CD, le DVD, les remixes, les inédits, les lives à Manchester ou Reykjavik. C'est vertigineux. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe, à la préparation, Sarah Masson, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, assisté de Paul Plumet. Merci à Ramsi Assadi, merci à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, à Michel Bézikian à la technique avec Guillaume Roux. Et puis, on vous laisse le mot de la fin, les gars. Allez hop.
C'était les négresses vertes, pourquoi pas les fromages blancs.